Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Discours de la servitude volontaire est un bref essai de philosophie politique attribué à Étienne de la Boétie. Rédigé au XVIe siècle, est devenu un texte classique sur la domination. Plutôt que de décrire seulement la violence du pouvoir, l'auteur interroge une énigme durable: comment un seul peut-il se maintenir au sommet si une multitude accepte de lui obéir? L'ouvrage développe l'idée que la tyrannie se nourrit moins de la force brute que de l'assentiment, de l'habitude et des relais de dépendance qui transforment l'obéissance en réflexe. Cette édition propose le texte intégral, accompagné de chiches, mémo destinés, à faciliter la lecture et à relier les analyses de la Boétie à des formes modernes de servitude, notamment sociales, politiques et médiatiques. L'ensemble vise un double objectif: rendre accessible un texte ancien parfois dense, et offrir un cadre de réflexion pour repérer les mécanismes de consentement et envisager des voies de libération fondées sur la lucidité et la non-coopression. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le paradoxe fondateur « La puissance des tyrans » vient du consentement. Le cœur du discours repose sur une question simple et dérangeante: si les dominés sont plus nombreux que le dominant, pourquoi la domination perdure-t-elle? La Boétie déplace l'explication hors de la seule contrainte. Un tyran, même entouré, reste numériquement minoritaire. Sa force matérielle ne suffit pas à expliquer l'obéissance massive. L'auteur soutient alors que le pouvoir ne tient que parce que les peuples le soutiennent, directement ou indirectement, par des actes répétés d'acceptation. Ce renversement d'un angle transforme l'analyse politique en examen de la responsabilité collective. Sans coopération, la tyrannie s'affaiblit. La thèse ne nie pas la violence ni la peur, mais elle insiste sur le fait que la domination devient durable lorsqu'elle est intériorisée. Cette perspective éclaire pourquoi des régimes peuvent se stabiliser même sans répression permanente. Les fiches mémo, dans une édition enrichie, peuvent aider à traduire ce paradoxe en questions concrètes: où commence notre participation, à quoi renonçons-nous par commodité? Et quelles formes de retrait sont possibles sans illusion et rouoc? Deuxièmement, habitude, peur et fascination, les ressorts psychologiques de la soumission. La Boétie met en avant des mécanismes de formation de l'obéissance qui ne relèvent pas seulement de la coercition. L'habitude joue un rôle central: on est dans un ordre établi, on s'y adapte, et ce qui devrait apparaître comme insupportable finit par sembler normal. La peur, bien sûr, compte, mais l'auteur suggère qu'elle se combine avec une forme de résignation: on préfère le connu à l'incertain. Il insiste aussi sur les séductions de la dépendance, quand le pouvoir distribue des signes de reconnaissance, des avantages ou des divertissements qui rendent la servitude plus acceptable. Cette analyse a une portée anthropologique: elle décrit comment la liberté peut se perdre sans bataille frontale, par glissement, par routine, par consentement fragmenté. Dans une lecture contemporaine, les fiches mémo peuvent inviter à repérer les lieux où habitude neutralise l'esprit critique, langage administratif, slogan, flux d'informations, à hiérarchies intériorisées. L'intérêt du texte est de montrer que la domination se renforce quand elle devient invisible et que la première étape d'une émancipation est souvent la nomination de ce qui paraissait naturel. Troisièmement, la chaîne des dépendances complicites passives et relais du pouvoir. Un des apports les plus marquants du discours est la description de la structure du pouvoir comme une pyramide de intérêts. Le tyran ne règne pas seul, il s'appuie sur des proches, puis sur des relais, puis sur des réseaux d'exécution et d'administration. Chacun, à son niveau, trouve un bénéfice ou une sécurité relative dans la proximité du pouvoir, mais même si cette sécurité se paie par la participation à l'ordre imposé. La Boétie met ainsi en lumière une logique de complicité diffuse. La domination se multiplie par capillarité parce que beaucoup y trouvent de petites raisons de consentir. Cette vision évite de réduire la tyrannie à une personnalité ou à un événement. Elle en fait un système entretenu par des incitations, des carrières, des protections et des conformismes. Pour un lecteur moderne, c'est une grille utile pour comprendre pourquoi des institutions peuvent produire de l'obéissance sans violence constante, la responsabilité est distribuée. Et la conscience se décharge sur la hiérarchie. Les fiches mémo peuvent alors servir de schéma de diagnostic où se situent les points de relais. Quelle récompense stabilise le système? Et comment une non-coopération ciblée peut casser la chaîne sans idéaliser une rupture totale? Quatrièmement, liberté comme état naturel, une anthropologie humaniste et normative, la Boétie défend l'idée que la liberté correspond à une condition humaine fondamentale, tandis que la domination est une déformation acquise. Cette affirmation donne au texte son ton humaniste et son énergie polémique: si la liberté est naturelle, alors la servitude n'est pas une fatalité. L'auteur n'offre pas un programme institutionnel détaillé. Il propose plutôt une norme de jugement mesurée au pouvoir à l'aune de ce qu'il fait aux hommes, à leur dignité et à leur capacité d'agir. L'intérêt de cette approche est double. D'une part, elle refuse de sacraliser l'autorité et interroge la légitimité au lieu de présupposer. D'autre part, Elle rappelle que l'émancipation ne se réduit pas à changer de mâtre, elle exige une transformation du rapport intérieur à l'obéissance. Une édition accompagnée de fiches mémo peut rendre ce point plus opératoire en distinguant liberté politique, liberté de jugement et liberté d'action. Le texte incite à comprendre la servitude comme une perte progressive de l'aptitude à dire non et la liberté comme un apprentissage de la responsabilité, individuelle et collective, face aux mécanismes de domination. En dernier lieu, désobéir sans violence la non-coopération comme stratégie de rupture. La Boétie est souvent lue comme un précurseur de la désobéissance civile, non parce qu'il élabore une doctrine moderne, mais parce qu'il avance une idée décisive : le pouvoir s'effondre si l'on cesse de le servir. La proposition 1 n'est pas un appel au chaos, elle vise un retrait de la collaboration qui alimente la tyrannie. En ce sens, la libération passe moins par la prise du pouvoir que par l'arrêt des gestes qui le rendent possible. Cette orientation a une force pratique. Elle ramène l'action politique à des conduites quotidiennes, à des refus gratuits, à une reconquête de l'autonomie de jugement. Elle met aussi en garde contre illusion que la violence règle le problème, puisque la logique de domination peut se reconstituer autrement, des fiches mémo. Dans une édition moderne, peuvent traduire cette stratégie en étapes identifiées ce qui est exigé, distinguer l'essentiel du superflu, construire des solidarités pour réduire le quota individuel du refus et maintenir une vigilance critique face aux nouvelles formes de dépendance. Le texte conserve ainsi une actualité, il propose une philosophie de la résistance fondée sur la lucidité. La cohérence et la capacité collective à interrompre l'engrenage de l'obéissance. En conclusion, cette édition du discours de la servitude volontaire s'adresse à ceux qui veulent comprendre les mécanismes de la domination au-delà des explications simplistes par la seule force. Lecteurs de philosophie politique, étudiants, enseignants, citoyens engagés ou simplement curieux y trouveront un texte court mais dense, qui oblige à se demander où se loge le consentement et comment il se fabrique. Le bénéfice intellectuel principal est le renversement de perspective, analyser la tyrannie à partir des comportements des gouverneurs, de habitudes et des relais de dépendance, plutôt que de réduire le problème à un chef ou à un appareil répressif. Le bénéfice pratique, lui, tient à l'idée de non-coopération, une manière de penser l'action sans se laisser enfermer dans l'alternative soumission ou violence. Par rapport à d'autres classiques, l'ouvrage se distingue par sa radicalité de sobre et sa portée transhistorique. Il ne décrit pas une époque seulement, il décrit une structure. Les fiches mémo, ajouta à cette édition, peuvent faciliter l'appropriation, en clarifiant les notions et en aidant à relier le propos à des situations contemporaines, notamment lorsque la servitude prend des formes plus diffuses, administratives ou culturelles. C'est un livre qui ne donne pas de recettes, mais qui réarme la vigilance et la responsabilité. Si vous souhaitez soutenir Étienne de la Boétie, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.